Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Mais en ce lundi 1er mars, les élèves ne savourent peut-être pas le retour à l'école, mais ils sont priés de saliver. Les tests se multiplient dans les établissements scolaires pour mieux contrer l'évolution du Covid. 300 000 tests salivaires seront effectués chaque semaine d'ici la mi-mars. Dans les EHPAD, plus d'un pensionnaire sur deux a reçu les deux doses de vaccin, mais les soignants sont toujours rétifs. 42% à peine se sont fait vacciner. Nous essaierons de comprendre pourquoi. Quant à l'avenir, eh bien Emmanuel Macron demande ce matin aux Français de tenir encore 4 à 6 semaines. Dans RTL Midi aussi, relax ou condamnation, Nicolas Sarkozy saura dans une heure s'il est condamné ou pas dans l'affaire des écoutes. 2 ans de prison ferme ont été requis contre lui, c'est du jamais vu pour un ancien président de la République. Les deux frères soupçonnés d'avoir tué le jeune Emen vendredi à Bondy sont dans le bureau du juge. Ils doivent être mis en examen pour assassinat, ce qui signifie que le juge retient la préméditation. Et puis le coup de cœur de nos correspondants nous emmènera en Moselle faire la connaissance de la fée maraîchère qui pratique l'art d'accommoder les restes. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Quelle lumière!
Ah bah oui, moi j'ai une belle carte, hein. Moi je vous le dis, j'ai les images satellites sous les yeux. C'est ciel bleu quasiment partout. Bon, il y a quelques nuages dans l'extrême nord, un peu également près des Pyrénées. C'était attendu, ça sera encore le cas cet après-midi. Quelques nuages au sud de la Garonne, et encore quand je vois l'image, il n'y en aura peut-être pas beaucoup. Quelques nuages également du côté du Roussillon, ou encore en remontant vers l'Aude, avec toujours un petit peu de vent d'OTAN d'ailleurs du côté de Carcassonne ou encore Toulouse. Et puis avec ce soleil, eh bien, grande différence hein, par rapport aux températures de ce matin où il faisait froid avec des gelées. On aura 13 à 16 degrés dans la moitié nord cet après-midi et 16 à 18 degrés dans le sud.
La question du jour sur RTL.fr. Tous les soignants des EHPAD doivent-ils se faire vacciner? Vous êtes 77% à dire oui, à 13% de non. C'est presque unanime. On attend vos témoignages au 32-10. Bonjour Pascal.
Bonjour Christelle. Nicolas Sarkozy, évidemment, on attend aussi la relaxe, vous l'avez dit, ou la condamnation, et vous pourrez réagir. Marine Le Pen peut-elle remporter l'élection présidentielle de 2022? Est-ce que c'est la fin du front républicain? J'ai déjà fait barrage, cette fois c'est fini, c'était la une de Libération, et ça a fait parler notamment dans La République En Marche. Vous pourrez bien sûr donner votre avis. La dernière déclaration d'Emmanuel Macron, qui demande de tenir en 4 à 6 semaines avant des assouplissements, et ça, j'imagine qu'on pourra également en parler entre 13h et 14h30, et puis c'est la journée des compliments aujourd'hui, donc vous êtes formidable, mais évidemment, c'est une banalité que de le dire, c'est la journée mondiale du compliment.
On va y venir.
À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Et pour commencer, si on payait notre électricité à prix coûtant, c'est un système très répandu dans les pays scandinaves. Et un nouvel acteur de l'électricité venu du Danemark propose une offre indexée directement sur le marché de gros. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne, Éric Vanier, et dites-nous si ce sera vraiment du prix coûtant.
Alors du prix coûtant, oui, mais avec deux bémols. Il faut rajouter les taxes et s'acquitter d'un abonnement de quelques euros par mois. Mais surtout, ce sera du prix coûtant avec de fortes variations à la hausse comme à la baisse, puisque ce tarif dépendra du marché de gros de l'électricité qui bouge en permanence en fonction de l'offre et de la demande, s'il fait froid, s'il fait chaud. Alors qu'EDF et les autres fournisseurs alternatifs, quelles que soient les températures, s'engagent sur des prix fixes. Le risque avec ce nouveau fournisseur qui vient de Scandinavie et qui s'appelle Bari, c'est qu'avec cette formule à prix coûtant indexée sur le marché, on ait brutalement une envolée des cours qui sera immédiatement répercutée sur la facture des clients. C'est ce qui vient de se passer au Texas. Sinon, avec l'application et l'obligation d'avoir un compteur Linky, vous pouvez avec ce système suivre le tarif qui vous est appliqué en temps réel et donc heure par heure vous adapter en différant par exemple la mise en route de vos appareils ménagers ou en baissant d'un ou deux degrés le chauffage. Et là, ce pilotage de votre consommation d'électricité en fonction du prix du kilowattheure à l'instant T est une vraie source d'économie.
Oui, attention, donc prix coûtant ne veut pas dire prix constant. Hein. Notez aussi en ce lundi 1er mars que les tarifs réglementés du gaz augmentent de 5,7%. L'étau du Covid commence à se desserrer dans les maisons de retraite médicalisées. Au dernier comptage, 83% des plus de 75 ans en EHPAD ont reçu une dose de vaccin, 57% les deux. Et le nombre de nouveaux cas positifs commence sérieusement à chuter. Dans certains EHPAD, Sophie Orange, on a déjà assoupli le protocole sanitaire.
Mais ils restent encore très peu nombreux. C'est tout de même le cas dans l'EHPAD de Montier-en-Der en Haute-Marne. Depuis mars dernier, Philippe voyait sa mère de 83 ans derrière un plexiglas pendant 3 quarts d'heure, une fois par mois. Les règles viennent enfin de changer, il a appelé RTL ce matin.
Maintenant, les visites en chambre sont de nouveau autorisées. Et puis le 16 mars, j'ai rendez-vous pour que maman puisse sortir et puis qu'on puisse l'emmener et la ramener sans qu'elle soit en quarantaine après pendant une semaine. On voit le bout du tunnel, ça fera un an qu'elle était enfermée dans sa chambre.
Mais dans de très nombreux établissements, les familles ne peuvent toujours pas toucher rien que la main de leurs proches. Cette semaine, une éclaircie arrive. On attend un avis du Haut Conseil de Santé Publique qui devrait assouplir les règles au niveau national. La demande est très forte de la part des établissements, mais aussi des familles, bien sûr, qui voient leurs parents souffrir de plus en plus de leur isolement. Beaucoup déclinent faute de contact. La vie ne pourra pas reprendre normalement du jour au lendemain partout. D'abord parce que le virus circule largement dans plusieurs régions. Ensuite parce que le vaccin n'empêche pas d'être malade. Il évite les formes graves et les décès. Et puis parce que seuls 40% des personnels d'encadrement sont vaccinés.
Ben oui, justement, on va y venir puisque Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée chargée de l'autonomie, révélait ce chiffre ce matin sur RTL. 42% donc seulement des soignants en EHPAD qui ont reçu un sérum. Nous sommes avec le docteur Gaël Durel, président de l'Association nationale des médecins coordonnateurs en EHPAD. Bonjour.
Bonjour.
Eh bien, ce chiffre de moins d'un sur deux, il paraît inquiétant quand même.
Alors, il paraît inquiétant, mais il est à relativiser par rapport aux difficultés que l'on a toujours eues à vacciner nos personnels en EHPAD avec l'absence de vaccination obligatoire. Si vous regardez les taux de vaccination concernant la grippe saisonnière, tous les ans, on est moins de 30%, on est plutôt autour de 20-25%. Donc là, de se dire qu'on a déjà multiplié par deux ce taux de vaccination par rapport à la grippe saisonnière, c'est déjà un succès et je préfère voir le verre à moitié plein que à moitié vide. Voilà. Et de se dire que c'est à nous ensuite de continuer à convaincre nos professionnels de l'utilité du vaccin pour eux, pour leurs collègues, pour leurs familles. Et bien sûr, encore pour les résidents, même si ceux-ci sont vaccinés, ils ne sont pas protégés à 100%. Le vaccin n'est pas efficace à 100%. On a encore une quinzaine de pourcents de résidents qui ne seront pas vaccinés. Ce qui veut dire qu'on a toujours des risques d'avoir des clusters au sein des EHPAD si on ne prend pas toutes les mesures nécessaires, notamment celle de la vaccination du personnel.
Mais justement, pour quelles raisons exactement la couverture vaccinale n'est pas plus importante chez les soignants ? Vous parliez du manque de doses, mais ce n'est pas seulement ça.
Alors, donc, selon les régions, donc les doses pour les soignants dans les premières semaines donc n'étaient pas disponibles donc en proximité. Il fallait aller dans des centres donc hospitaliers, donc ce qui pouvait donc entraîner une réticence d'aller passer une heure de trajet pour les soins vaccinés. Oui. Donc c'est en train de changer avec les doses disponibles auprès des médecins généralistes et donc on peut maintenant trouver à la porte de chez soi de quoi se faire vacciner. On a eu les problématiques liées aux effets secondaires donc de forte intensité mais donc de très faible donc conséquences. Donc il suffit simplement de prendre du paracétamol toutes les 6 heures pour qu'on n'ait pas d'effet, mais ça a pu refroidir certaines personnes, de se dire pendant 2 jours je vais pas être bien et donc je vais entraîner un arrêt de travail qui va mettre en difficulté mes collègues.
Est-ce que c'est ça le principal problème, pardon docteur, est-ce que c'est ça le
principal problème,
la méfiance ?
C'est toujours, c'est la confiance, de se dire donc j'ai donc un vaccin qui donc est récent, dont on n'a pas forcément toutes les connaissances et pour une maladie qui chez moi n'est pas grave puisque donc les principale complication de la Covid touche les personnes de plus de 70 ans. Donc c'est le fait de dire aujourd'hui donc je me protège donc contre une forme grave que j'ai très peu de risques d'attraper et comme les résidents eux sont vaccinés, est-ce que je dois continuer ? Et donc nous on insiste, il faut à tout prix que l'ensemble du personnel se fasse vacciner, que l'ensemble des familles venant visiter nos résidents soient aussi vaccinés parce qu'on a toujours des risques et on voit donc que depuis la vaccination toujours des clusters au sein des EHPAD. Donc les variants nous inquiètent parce qu'on n'est pas certain d'avoir une efficacité à 100% donc sur ces variants-là. Donc il faut utiliser tous les moyens possibles pour limiter l'entrée des virus au sein des EHPAD.
D'autant que cette méfiance, eh bien, au fond, elle n'encourage pas les pensionnaires à se faire vacciner non plus. J'imagine que quand ils discutent avec leur médecin et qu'ils disent « Alors, et vous ?» et que le médecin dit « Ah ben non, moi je ne me fais pas vacciner », c'est pas très positif.
Au niveau des médecins, je pense qu'on est au-delà de 90% du taux de vaccination pour les médecins. Donc c'est plus des jeunes soignants qui auraient des réticences. Et quand on voit qu'on est à 84%, et je pense qu'on le voit jour après jour, semaine après semaine, des personnes, des familles arrivent à donc convaincre de dire c'est un vaccin, la preuve qui est bien tolérée, puisque donc dans l'immense majorité des cas, il n'y a eu aucune complication, et les résidents qui voient leurs personnes qui sont à côté d'eux ayant parfaitement bien toléré le vaccin, on en a vu plusieurs fois, qui 3 semaines plus tard, lors de la deuxième dose, acceptent de faire leur première dose, puisque c'est donc important. Donc on va pouvoir continuer à augmenter le nombre de résidents vaccinés, c'est à peu près certain. Mais en effet, la réticence liée aux anti-vaccins, liée à différents éléments qui ont pu aussi circuler sur les réseaux sociaux, font qu'on a encore du travail à faire pour convaincre nos personnels de se faire vacciner en grande masse.
Mais vous les appelez à se faire vacciner en masse, en tout cas. Merci beaucoup, docteur Durel, président de l'Association nationale des médecins coordonnateurs en EHPAD. Le vaccin d'un côté, les tests de l'autre. On part dans une école des Hauts-de-Seine dans un instant.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Tester les élèves pour mieux garder les écoles ouvertes, c'est l'objectif du ministère de l'Éducation nationale qui déploie depuis la semaine dernière des tests salivaires au retour des vacances d'hiver. C'est moins désagréable que les couvillons dans le nez et plus simple pour les plus petits. Hortense Crépin, vous êtes devant l'école Jean de la Fontaine à Levallois-Perret où 380 enfants et leurs encadrantes étaient priés de cracher ce matin.
Oui, ce matin, avant même d'ouvrir leur cartable en classe, près de 400 élèves, leurs enseignants et tous les personnels de l'école ont passé, comme Axel, un test un peu particulier.
On devait cracher de la salive dans un tube pour savoir si on avait le virus ou pas.
Comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais peur?
Non, ça s'est passé très bien.
Les plus inquiets ce matin, c'était peut-être les parents. Constance est venue récupérer sa fille pour le déjeuner.
La seule question qu'elle m'a posée, c'est est-ce que ça fait mal, maman? Parce qu'on a dû faire un test PCR il n'y a pas très très longtemps.
Et donc vous, en tant que maman, comment vous avez réagi en apprenant qu'ils allaient être tous testés ce matin?
C'est rassurant de savoir qu'ils font un test généralisé avec tous les enfants pour qu'ils puissent continuer à retourner à l'école et qu'on soit serein aussi pour eux, quoi.
Et si plusieurs cas se déclarent dans d'autres écoles, la mairie compte mettre en place le même dispositif. Agnès Petit-Dumas, le maire de Levallois-Perret.
L'idée, c'était évidemment de rassurer les familles et surtout d'isoler les cas éventuellement porteurs, ceux, les fameux asymptomatiques qui auraient pu retourner à l'école sans savoir qu'ils étaient porteurs du virus et pouvoir les mettre à l'isolement 10 jours.
Et les résultats des tests de ce matin doivent être connus dans la journée.
Et l'objectif, c'est 300 000 tests par semaine dès la mi-mars. Pour l'instant, entre 120 000 et 130 000 ont été effectués, dit Jean-Michel Blanquer. Emmanuel Macron, en déplacement ce matin à Stein, interpellé par un jeune homme, a expliqué qu'il fallait encore tenir 4 à 6 semaines sans plus de précision. L'heure du jugement pour Nicolas Sarkozy, relax ou condamnation, c'est la première fois qu'un ancien président de la République risque 2 ans de prison ferme dans l'affaire dite des écoutes. Il est poursuivi pour trafic d'influence et corruption. On retrouve Anne Lehena, au palais de justice de Paris, où c'est la foule des grands jours, car si Nicolas Sarkozy est condamné, bien ce serait une image inédite.
Oui, car le seul chef d'État condamné dans l'histoire, Jacques Chirac, n'était pas présent à son procès, il était malade. Alors on ne sait pas encore si Nicolas Sarkozy assistera au jugement dans moins d'une heure maintenant. En tout cas, les caméras et les appareils photos sont là en masse, effectivement, pour capter son arrivée éventuelle et sa sortie de la salle d'audience. Pendant le procès, l'ancien chef de l'État a nié toute participation à des faits de corruption. « Je veux être lavé de cette infamie », a-t-il souhaité à la barre. Ses avocats ont longuement argumenté qu'il n'y avait aucune preuve dans ce dossier. Rien pour démontrer que Nicolas Sarkozy a promis un poste à un magistrat en échange d'informations sur une procédure le concernant. Le parquet financier qui portait l'accusation a en revanche parlé d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, justifiant la condamnation de Nicolas Sarkozy à de la prison ferme. On ne peut pas admettre qu'un président oublie la République, a lancé l'un des procureurs.
Anne Lehena en direct du palais de justice de Paris, jugement donc dans un peu moins d'une heure. Il avait 15 ans, il s'appelait Eymen et il a perdu la vie vendredi soir à Bondy pour une sombre querelle qui durait depuis plusieurs mois. Deux frères de 17 et 27 ans sont en ce moment dans le bureau du juge d'instruction à Bobigny. Ils devraient être mis en examen pour assassinat, ce qui signifie, Alice Moreno, que le juge retient la préméditation.
Absolument, puisque quelques heures avant le coup de feu mortel, une première bagarre éclate entre les deux frères et Eymen dans une maison de quartier de Bondy. Les animateurs parviennent à les séparer. Le père du jeune Eymen arrive sur les lieux. Les deux frères reviennent à la charge. C'est la deuxième altercation. Les frères de 17 et 27 ans finissent par partir, mais ils reviennent sur les coups de 17 heures. Ils circulent à scooter. Le passager descend du deux roues, se dirige vers la porte d'entrée de la maison de quartier, glisse le canon de son arme dans l'entrebâillement de la boîte aux lettres et tire. Il blesse mortellement le jeune Eymen qui se trouvait à l'intérieur du bâtiment. Les deux mis en cause s'en sont pris à plusieurs reprises à l'adolescent, sont allés chercher ce pistolet. L'un d'eux a effectué un tir précis et de sang-froid. Voilà pour les éléments qui constituent cette préméditation. Et puis, vous l'avez dit, un différend de longue date opposait apparemment les deux mis en cause et la victime. Les deux frères se sont rendus d'eux-mêmes aux enquêteurs au lendemain du drame. Ils devraient être mis en examen cet après-midi. Le parquet a également requis leur placement en détention détention provisoire.
Récit Alice Moreno. Quant aux violences entre bandes, une réunion a lieu en ce moment avec les ministres de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation. Gérald Darmanin demande au préfet de mettre en œuvre dans chaque département un plan de repérage, d'accompagnement et de prévention ciblé sur les jeunes. Des enquêtes systématiques pour les crimes et délits sexuels sur mineurs, dont l'inceste fait partie. C'est ce qu'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, demande au procureur, même si les faits sont susceptibles d'être prescrits. Cela doit permettre, selon lui, de découvrir l'existence d'autres victimes pour lesquelles les faits ne seraient peut-être pas prescrits, mais aussi à la personne mise en cause de s'expliquer sur les accusations dont elle fait l'objet. Le numéro 2 du Rassemblement National, Jordan Bardella, candidat aux prochaines élections régionales au mois de juin. Il conduira la liste de son parti en Ile-de-France. Un challenge en sachant que le RN n'avait récolté que 14% des voix il y a 6 ans.
Je serai candidat à ces élections régionales. En Ile-de-France, d'abord parce que l'Ile-de-France, c'est ma région. Je suis né, j'ai grandi dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis. Et les problèmes que moi j'ai pu rencontrer très jeune en Seine-Saint-Denis, on est en train de les voir aujourd'hui dans tout le pays. Cette ultra-violence qui gangrène aujourd'hui la région et contre laquelle il nous faut aujourd'hui agir avec force. Je pars en tout cas pour gagner, bien sûr que je pars pour présider la région Ile-de-France. Et il est d'autant plus symbolique que je mènerai la liste en Seine-Saint-Denis, qui est mon département et qui est un département emblématique aujourd'hui de ces territoires perdus de la République, pour aller les reconquérir.
Jordan Bardella, invité ce matin d'Alba Ventura sur RTL. Dans un instant, la répression qui s'intensifie en Birmanie contre les militants pro-démocratie.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
C'est sous un prétexte fallacieux que l'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, renversée par un coup d'État militaire, comparaît devant la justice. Elle est poursuivie pour avoir importé illégalement des talkie-walkie et violé des restrictions liées au Covid. Hier, les manifestations des pro-démocratie ont été violemment réprimées. D'après les Nations Unies, il y aurait eu au moins 18 morts, Brice Dugénie.
Oui, peu à peu, la police anti-émeute birmane durcit la répression. Rose a 24 ans. Elle faisait partie des manifestants au début du mouvement, mais depuis quelques jours, et notamment depuis les premiers morts, ses parents lui ont interdit de sortir, mais elle reste déterminée.
Depuis le 1er février, nous vivons dans le désespoir et la peur. Tous les citoyens ont peur. Mais de toute façon, nous ne sommes plus en sécurité. Alors, ça ne sert à rien d'avoir peur. Il faut se battre pour nos droits et la démocratie plutôt que d'avoir peur.
Malgré les 18 manifestants tués hier dans les cortèges, elle veut rester optimiste. Il en va de l'avenir de son pays et de sa génération.
On aura ce qu'on mérite. Je ne suis pas sûre que nous allons gagner. Ils ont des armes, des fusils que nous n'avons pas, mais nous avons le peuple. Si les militaires gagnent cette bataille, l'avenir de ce pays sera plongé dans l'obscurité. Pour la jeunesse, notamment pour nous, ce sera sans espoir.
Pas sûr que cette détermination suffise désormais face aux balles réelles des militaires au pouvoir.
Brice Dugénie.
RTL. Le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons ce midi à Gondange en Moselle, retrouver la Fée Maraîchère. C'est le nom d'une société montée par une ancienne cadre du commerce qui récupère les invendus de fruits et légumes en supermarché et qui les sublime, Dimitri Ramelot.
Dans le sous-sol de sa maison transformée en laboratoire, Florence Duchaud compte les cagettes récupérées lors de ses 3 tournées de la semaine auprès des supermarchés partenaires.
J'ai à peu près 200 kilos de bananes, poires, pommes, hein, saison de la grande distribution. Alors je fais à peu près 350 confitures.
Et parmi les stocks, poire, pomme, cannelle, fraise, pomme ou fruits rouges, réalisés grâce à un compresseur, une capsuleuse, une marmite, une balance professionnelle et une table en inox.
Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que les supermarchés faisaient des fruits et légumes que le client ne choisissait pas? Et la solution, elle venait finalement de mes grands-parents qui faisaient de la confiture avec les fruits qui étaient moins jolis du verger.
Car cette fille d'agriculteur ne conçoit pas de jeter un fruit, parfois produit par des dizaines de petites mains, une démarche qui a séduit Frédéric Ricato, responsable de l'un des supermarchés partenaires.
Pour moi, de toute façon, c'est de la marchandise qui ne valait plus rien. Donc, ça me permet de racheter effectivement, entre guillemets, mes déchets que je vais pouvoir présenter à la vente à mes clients qui sont tout aussi heureux de participer à ce circuit circulaire.
Prochaine livraison ?
C'est demain et ce sera du kiwi ananas.
Et entre 30 et 50 pots sont vendus chaque jour dans cette enseigne au prix de 3,50 € et au rayon fruits et légumes, là où ils étaient exposés avant d'être retirés de la vente.
Merci beaucoup Dimitri Ramelot pour cette fée maraîchère. Football, Julian Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, a démissionné ce matin après une nouvelle défaite face à Nice, vendredi 2-1. Troisième défaite d'affilée en championnat, le club est 9e au classement de Ligue 1. Il occupait ce poste depuis décembre 2018. Enfin, c'est la journée nationale du compliment, l'occasion d'être aimable et bienveillant, sans arrière-pensée, contrairement à Yves Montand dans La Folie des Grandeurs, s'adressant à son maître Louis de Funès.
Et maintenant, Blaise, flattez-moi.
Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne.
C'est pas une flatterie, ça, c'est vrai.
Imbécile.
Qu'est-ce que vous dites?
Non, imbécile que j'ai répondu au valet du duc d'Albe. Non, non, mon maître n'est pas le résultat de mariage consanguin. Tu n'as pas regardé qu'il me dit. Il faut pas se fier aux apparences que j'y réponds. C'est pas parce que sa mère avait épousé le demi-frère de sa tante, qui était elle-même la cousine germaine de la sœur de son père, qui...
Êtes-vous bien sûr que c'est une flatterie, ça?
J'adore cet extrait, Pascal Trou.
C'était vraiment bien votre journal. Oh, bah.
Ça, ouais, c'est juste c'est... parce qu'on est le 1er mars. Donc
non, c'était vraiment intéressant. J'ai trouvé que c'était intelligent. C'était bien mis en scène, bien mis en perspective.
Flattez-moi.
Vos questions étaient vraiment très bonnes. C'était très brillante. On pensait que c'était un mélange d'improvisation alors que tout était écrit. Voilà. Non, c'était vraiment remarquable.
Il l'a vous donné dans la flagornerie. C'est la journée de la flagornerie.
Mais le compliment. Paraît-il qu'il y avait un journaliste qui disait sujet, verbe, compliment. À la télé dans les années 60. Bon, on va parler de Sarko, allez, disons-le, oui. Parce que ça va tomber dans notre émission.
Dans une demi-heure,
voilà.
C'est 13h30.
Donc, évidemment, les auditeurs vont pouvoir réagir sur la relaxe ou le jugement de Nicolas Sarkozy. J'ai dit Sarko, pardonnez-moi cette familiarité de Nicolas Sarkozy. On parlera de ça, bien sûr, comme on pourra parler de Marine Le Pen, peut-être remporter l'élection présidentielle de 2022, comme nous pourrons parler de ce que vous avez fait ce week-end, peut-être avec... ces images qu'on voit avec les Français qui sont à l'extérieur, on arrive avec les beaux jours quand même. Et on nous dit qu'aucune transmission ne se ferait, aucune contamination à l'extérieur. Et en même temps, on demande à tous les Français de pas rester sur les quais de Seine, les Parisiens en tout cas. Donc vous pourrez réagir bien sûr sur tous ces sujets-là. Mais c'est la météo, je vois.
Ben oui, il fait beau et il fait doux. Il fait doux, c'est de la faute à
C'est de la faute, oui. Ça m'a donné envie de sortir encore aujourd'hui, c'est clair. Avec cet après-midi, du clair partout, du grand soleil, grand ciel bleu même dans la plupart des régions, quelques nuages peut-être près des Pyrénées, dans le Roussillon également, quelques entrées maritimes poussées par un vent d'automne qui restera assez fort, quelques nuages également du côté du Pays Basque, mais ailleurs du grand ciel bleu et du coup des températures qui vont largement grimper par rapport à ce matin où il faisait froid. 13 à 16 degrés, pas moins, cet après-midi dans la moitié nord et 16 à 18 degrés même dans le sud.
Les températures font le grand écart cette saison et demain à peu près le même scénario.
Même chose, je vois que ça vous plaît, alors moi aussi j'ai envie d'être gentil, donc je continue demain. On aura encore du grand ciel bleu quasiment partout, peut-être un voile nuageux un petit peu plus épais dans l'ouest mais sans conséquence. Encore quelques nuages dans le Roussillon, puis les températures, toujours vous l'avez dit, le grand écart entre le matin, mais cette saison avec des gelées assez fréquentes dans les régions de l'Est et moins de 5 degrés souvent dans les autres régions. Et l'après-midi, au contraire, 14 à 17 degrés, 1 degré de plus qu'aujourd'hui en moyenne dans la moitié nord et 17 à 19 dans le sud.
Même la météo est flatteuse, merci Louis. Oui. À suivre le rappel des titres.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Il est quasiment 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
La petite phrase d'Emmanuel Macron, il faut être prudent d'ailleurs, parce que le président de la République a demandé de tenir encore 4 à 6 semaines, mais il n'a dit que cela. Il n'a pas parlé d'assouplissement. Ce ne sont pas des mots qui ont été dans sa bouche. Mais Benjamin est déjà avec nous. Bonjour Benjamin.
Bonjour Pascal.
Donc vous allez peut-être vite en besogne, parce que assouplissement, c'est ce que vous avez entendu manifestement.
Sur assouplissement, on espère.
Oui.
On va tout faire pour.
Mais c'est pas ce qu'il a dit, parce qu'il a surtout dit qu'il fallait encore tenir. Christelle,
exactement,
le rappel des titres.
Justement, il faut tenir encore quelques semaines, 4 à 6 semaines. C'est donc ce qu'a dit Emmanuel Macron, interpellé par un jeune homme ce matin lors d'un déplacement en Seine-Saint-Denis. Les tests salivaires se déploient dans les établissements scolaires, moins contraignants que les couvillons. L'objectif, c'est 300 000 tests d'ici mi-mars par semaine. L'heure du jugement pour Nicolas Sarkozy. Dans une demi-heure, le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement dans l'affaire dite des écoutes. Le parquet avait requis 2 ans de prison ferme contre l'ancien
l'ancien président de la République. Le bas de laine des Français, ils ont épargné plus de 100 milliards d'euros depuis l'an dernier par crainte de l'avenir et à cause du confinement. Bruno Le Maire se veut rassurant. L'épargne des ménages, promet le ministre de l'Économie, ne sera pas taxée pour les inciter à consommer. Les déboires continuent pour le FC Barcelone. La police procède à des perquisitions en Catalogne au siège du club. D'après la presse espagnole, l'ancien président Josep Bertomeu a été arrêté ainsi que sa garde rapprochée. Les autorités soupçonnent des malversations financières. Les auditeurs.